Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Patrick Flandrin. Tu es informaticien,
oui.
Spécialiste de la théorie du signal. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un mot, très employé dans les médias. Alors, quel mot as-tu choisi ?
Alors, le mot choisi, c'est pas vraiment un mot, puisque c'est deux lettres. C'est IA, intelligence artificielle.
Ah, c'est vrai qu'on l'entend partout, dans toutes les sauces.
Et en fait, je voudrais parler plus généralement de plus de mots qui tournent autour de l'IA. Maintenant, évidemment, on ne peut pas ouvrir une radio sans entendre ce mot prononcé. Mais finalement, il y a une explosion, elle est datable, hein, c'est assez facile. C'est novembre 2022, l'irruption de l'IA grand public, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT est arrivé et a considérablement modifié le paysage parce que avant, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient et qui d'ailleurs se revendiquaient pas forcément comme sous le nom de l'IA. On parlait d'apprentissage machine, on parlait de reconnaissance, on faisait de la reconnaissance vocale, on faisait des choses comme ça. Mais ça a pris une dimension complètement autre avec ces IA génératives, maintenant qui envahissent le débat public pour des tas de bonnes raisons. Mais en même temps, l'IA en tant que telle, c'est un mot qui quelque part est révélateur du monde numérique dans lequel on est, mais c'est un parmi beaucoup. Et ce qui est intéressant, je pense, enfin, si Étienne, tu es d'accord pour qu'on parle de ce sujet en l'étendant un petit peu, c'est de parler de la place des mots qui viennent, on va dire, du monde numérique, de l'informatique, et qui prennent une importance un petit peu exagérée en modifiant notre propre langage.
Donne-moi un exemple d'un usage pas correct.
Un exemple typique, c'est changer de logiciel. Voilà. Alors ça, c'est typiquement une expression qui a envahi le débat public avant l'IA et qui est évidemment issue du monde de l'informatique. Donc on dit, voilà, il se trouve que le PS a changé de logiciel ou il serait temps de changer de logiciel pour faire mieux les choses, ou etc. Un bug, pareil.
Que beaucoup de nos auditeurs ne savent même pas que bug en anglais, ça veut dire une petite bête.
Et alors même historiquement, ça se trace. Alors on dit que la première occurrence du bug, c'est Grace Hopper, l'informaticienne de Harvard, qui l'a répertorié, parce qu'elle a collé ça dans son cahier d'expérimentation, parce que les programmes de la machine s'étaient arrêtés, parce qu'il y avait un petit insecte qui s'était coincé dans le système. Ça avait fait arrêter le système, et c'est une anecdote.
On peut dire ton disque dur aussi.
On peut dire le disque dur, on peut dire aussi, j'en avais noté d'autres, par exemple, on est programmé pour faire quelque chose, ou bien on se reprogramme, on fait un reset sur le système, ou bien on peut dire aussi que de quelqu'un qui ne me calcule pas, ou bien toutes des expressions en fait.
Et qui sont arrivées progressivement dans le langage.
Oui, alors c'est arrivé, il y a deux phases. Alors, là, je fais référence à un petit livre qui est très intéressant à ce sujet, qui s'appelle LQI, notre langue quotidienne informatisée, d'un psychanalyste qui est Yann Diner, et qui explique beaucoup de choses justement sur la façon dont des termes s'invitent dans le langage et en même temps, d'une certaine façon, transforment notre rapport au monde et notre rapport à beaucoup de choses. Si on regarde tout ce qui concerne les termes de l'informatique, d'une certaine façon, il a fallu inventer des tas de mots dans un premier temps, parce que les choses n'existaient pas. Il y a un moment, on s'est dit, mais cet objet sur lequel on est en train de faire des choses, comment on va l'appeler ? Les Anglais disent computer, nous on dit ordinateur.
C'est beaucoup mieux en français.
Voilà. Alors ordinateur, c'est intéressant aussi, parce qu'en 1955, IBM lançait une gamme de machines et voulait donner un nom qui soit un nom français. Et ils se sont adressés à un philologue qui était Jacques Perret, qui travaillait à la Sorbonne, en lui demandant de faire des propositions. Et Jacques Perret a fait une très belle lettre qu'on trouve justement dans le livre de Yann Diner, où il fait des propositions. Et il dit, je pense qu'ordinateur serait pas mal, puisque c'est quelque chose, ordination, enfin, il y a tout un langage. Et c'est, ce qui est assez amusant, c'est qu'à la fin, il dit, mais bon, finalement, je vois que beaucoup des opérations que vous faites sont attachées à des noms féminins. Je me demande si on ne pourrait pas dire plutôt une ordinatrice. Et moi, je serais assez favorable à appeler ces objets une ordinatrice électronique. Et puis finalement, on a gardé ordinateur.
Alors que les Américains ou les anglophones, en tout cas,
ont pris computer.
Qui est un peu pas bon. Bah, quoi.
C'est un peu calculatrice. Quoi. C'est vraiment se fixer sur le calcul. Et de la même façon, quelques années plus tard, c'est un ingénieur qui a inventé le mot informatique en français. Puisque informatique, c'est une contraction d'information et d'automatique. Et c'est un mot qu'il faut créer par rapport à une science ou des objets qui se mettent en place.
Sachant qu'en anglais, c'est aussi resté computer science, beaucoup moins créatif que nous.
Exactement, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand après la langue se développe et crée ces nouveaux mots, bah, finalement, ces mots sont réappropriés dans le langage courant pour, d'une certaine façon, parler d'autre chose, enfin de manière imagée, mais en même temps, nous mettre dans un cadre d'expression et de réflexion qui, finalement, est celui de la machine, un peu.
Et ça, c'est dans un deuxième temps qui est beaucoup plus tard.
Bien sûr. Ça, c'est, oui, moi, je dirais à partir des années 2000, vraiment. On a commencé à changer de logiciel dans les années 2000.
Et alors, cette troisième étape qui se passe en ce moment ?
Oui, alors maintenant, ce qui se passe, c'est que ça nous envahit tellement que c'est plus tellement au niveau du langage, mais moi, je dirais, c'est plus au niveau de la vision du monde que ça nous donne. L'IA la plus connue, l'IA la plus populaire, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi ? C'est une IA générative qui procède à partir d'apprentissage. Donc c'est quelque chose qui est fait pour, de manière probabiliste, quand on dit une certaine séquence de mots, proposer le mot le suivant qui est le plus probable.
Par rapport à un passé.
Alors par rapport à un passé, par rapport à tout un apprentissage qui a été fait dans des considérations similaires de contexte. Forcément, c'est quelque chose qui, en général, donne du plausible, puisque ça donne quelque chose qui satisfait aux mêmes lois de statistiques ou de probabilité. Mais plausibilité ne veut pas dire vérité. Et ça, c'est ça la grande chose qui est difficile avec toutes ces IA, c'est que souvent, comme on leur associe aussi le nom d'intelligence, on a envie de penser que s'ils sont intelligents, ils disent vrai.
On parlait hier justement encore d'un exemple où l'intelligence artificielle fait des progrès incroyables parce qu'elle permet de diagnostiquer bien plus précocement des cancers du sein, par exemple. Alors, sur cette question précise, est-ce que l'intelligence est probablement plus efficace que les radiologues, mais ce que faisaient les radiologues, c'était aussi un peu de l'intelligence artificielle. Ils regardent une radio, et en fonction de ce qu'ils savent des radios qu'ils ont vues dans le passé, ils prennent une décision, en tout cas une opinion. Donc est-ce qu'il y a eu un changement conceptuel quand on passe du radiologue à l'IA ?
Le changement, il est essentiellement que la machine a une capacité à traiter infiniment plus de données que ce que peut faire un humain. C'est-à-dire le diagnostic que portera une machine dans un cas médical comme celui-là ou un autre, ça peut se baser sur un nombre infiniment plus grand que ce qu'un praticien aurait été amené à voir dans sa vie.
Mais dans le principe, c'est la même chose.
Mais dans le principe, c'est un peu la même chose. Alors après, ce qui est difficile, c'est un peu comme pour le praticien. Le praticien, lui, il va prendre une décision et il aura du mal à mettre des barres d'erreur par rapport à ça, ou dire il y a tant de chances que ça soit comme ci ou tant de chances que ça soit comme ça. Mais de manière assez claire, il raisonnera par rapport à un corpus de choses qu'il a déjà vues ou autres, qui est bien circonscrit et qui lui permet malgré tout de valider son diagnostic. La difficulté qu'il y a souvent avec ces IA par apprentissage, c'était vrai déjà quand on parlait juste de machine learning ou de choses de ce genre, c'est que le résultat dépend beaucoup de la nature du corpus sur lequel on a fait l'apprentissage. Les premiers exemples qui ont été faits sur les grands succès de l'IA, qui ont été controversés un petit peu, parce que c'était pas pour des cancers, c'était pour des détections, en tout cas, de problèmes qui peuvent être sur la peau. Et en fait, il y avait des résultats qui étaient effectivement meilleurs que ce que donnaient les praticiens, mais comme on dit, toutes choses égales par ailleurs. Parce que dès qu'on mettait la machine sur finalement des peaux qui n'étaient pas dans le corpus d'apprentissage, typiquement Bon, lorsqu'on transposait sur une des populations en Inde ou au Japon ou ailleurs, ben on avait des résultats très mauvais parce qu'on s'apercevait qu'en fait, on s'était entraîné essentiellement sur des peaux qui étaient des peaux blanches. Voilà. Donc, et très souvent, le problème, il est dans la nature de la base d'apprentissage, puisque la machine, elle fera très très bien ce qu'on lui demande de faire, mais elle ne peut pas faire mieux, elle ne peut pas inventer par rapport à des données qu'elle n'a pas vues.
Et surtout, on fait confiance aujourd'hui à ces détections par IA qui se sont basés sur un corpus du passé. Et si on fait ça pendant 20 ans ou 30 ans, le corpus sera toujours le
oui,
même.
Oui, alors oui, non. Et c'est ça un peu qui est un deuxième problème. C'est que le corpus, éventuellement, sera le même. Mais si on glisse sur le côté de l'IA générative, par exemple, ben, on se trouve dans une situation où, par exemple, maintenant, on a des systèmes incroyables pour faire des générations d'images. Donc, on prompte quelque chose, je veux dire, dessine-moi un académicien, et puis, pof, on va avoir des tas d'images.
Prompt est aussi un mot informatique.
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vraiment un mot qui, maintenant, est un peu... on dit prompt un peu comme certains disent ChatGPT plutôt que ChatGPT. Mais il y a un phénomène qui est un phénomène qui a été documenté explicitement. Il y a la littérature qui a montré des choses là-dessus l'année dernière. Eh bien, c'est que quand on crée une image dite nouvelle à partir de toutes les images existantes que l'on a vues, ben on crée une image qui est de même nature statistique par rapport à ce corpus qu'on pense être un corpus réel d'une certaine façon, en tout cas de vraies images. Mais maintenant, si on augmente le corpus avec les images qu'on a créées, ben, on se retrouve à avoir quelque chose qui donne aux images chimères qu'on a créées le même statut que les images de l'apprentissage précédent. Et à terme, ben, si on a de plus en plus d'images créées qui ressemblent de plus en plus aux images qu'on avait avant, ben, on va avoir de plus en plus d'images qui se ressemblent toutes.
Elles seront toutes pareilles.
Voilà. Et donc ça, c'est une des possibilités. Ou alors, de temps en temps, parce que les algorithmes prévoient un petit degré de liberté, bon, c'est ce qu'on appelle des hallucinations aussi, les systèmes se mettent à donner n'importe quoi. Mais il y a un côté...
Sur n'importe quoi, pouvant être génial.
Alors ça serait pas mal, parce que ça serait justement une porte ouverte sur la créativité. Parce que sinon, le problème, souvent, c'est quand même d'avoir une grande uniformité. Enfin, tout le monde est assez conscient que même si maintenant ChatGPT et les autres ont fait des progrès par rapport aux premières versions, il faut bien reconnaître que les textes de ChatGPT, en général, sont très ennuyeux. Je pense qu'on peut pas attendre de ces systèmes-là qui, justement, ils fassent des textes avec le petit pas de côté qui transforme un texte en littérature, par exemple. Ouais. Disons qu'il y a un côté, comment dire, de principe qui fait que dans la mesure où on est amené à construire sa proposition sur la base de ce qui existe déjà et d'être cohérent de manière probabiliste avec ce qui existe déjà, eh bien, si on ne force pas l'écart, c'est difficile de créer. C'est-à-dire, c'est très facile. Et moi, je trouve que ce qui est le plus bluffant en ce moment, c'est les systèmes d'IA qui génèrent des chansons, de la musique, du son. C'est incroyable, parce qu'on peut effectivement donner un texte et on nous fabrique une chanson sur un rythme donné, etc. etc.
Mais... Patrick Maître des algorithmes. Passion pour l'IA s'embrase. Avec toi, la science devient rythme et le futur chante ta gloire en extase.
Voilà, mais est-ce que le système a la capacité d'inventer un nouveau style de musique ? Un vrai nouveau style et pas simplement quelque chose qui ressemble à ce qui existe déjà.
L'avenir nous le dira.
On verra.
Je vais poser la question traditionnelle, mais je crois que je connais la réponse. Quel genre de musique on peut ajouter ? Est-ce que tu peux me recommander un logiciel qui créerait une chanson à ta gloire ?
Suno.
Alors je vais essayer ça. Tu as déjà essayé ?
Oh Patrick, maître des algorithmes, ta passion l'IA s'embrase. Avec toi, la science devient rythme et le futur chante ta gloire en extase.
Alors vous avez écouté Tuno chantait la gloire de Patrick Flandrin. Mais comme je voulais quelque chose d'un peu plus humain, j'ai aussi ajouté une chanson de Brian Eno de 1983, donc bien avant l'IA, intitulée An Ending.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.